La chose que je peux dire, c'est que pour la visite, c'est clair qu'on voit que le violon semble difficilement s'accorder entre le niveau politique, le niveau stratégique et le niveau d'opérationnalisation de cette mission. On a compris que dans la déclaration de Blinken, et je répète qu'il dit que non seulement que cette mission a besoin d'être renouvelée, et il dit qu'il veut s'assurer que nous ayons quelque chose de plus durable. Et il a continué pour dire qu'il est en train d'envisager beaucoup d'options pour avoir une mission opérationnelle de paix des Nations Unies. Donc le mot durable dit beaucoup. Donc en termes d'évaluation, on le voit. Sur le plan politique international, on est en train de changer de régime. Sur le plan de la stratégie, il n'y a pas de stratégie qui est vraiment claire par rapport à la mission. Et sur le plan de l'opérationnalisation, on peut évaluer les résultats sur le terrain. Et là, je peux vous dire que, en fait, dans les données, 85% du territoire contrôlé par les grandes armées, beaucoup plus dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les deux plus grands foyers sont la capitale, l'Ouest, et la région de l'Antibonite. Mais pour vous donner un petit peu de contexte, comprenez que la région de l'Antibonite et l'Ouest représentaient en 2016 pour les élections 57% à 76 à 60% de l'électorat. Donc quand on dit aux gens que OK, c'est juste Port-au-Prince, mais le reste du pays n'a rien, c'est pas vrai. Donc vous avez quatre départements qui est pratiquement coupé. Vous avez 600 000 personnes qui sont des déplacés internes. Et la question la plus simple, est-ce que tu vis avec la présence de la mission, il y a une réduction du pourcentage de territoires occupés par les gangs? Non. Est-ce qu'en termes de déplacés internes, on est à 600 000? Est-ce qu'il y a une réduction en ce sens? Non. Donc sur le plan de l'opérationnalisation, on n'a même pas de petites victoires. Sur le plan diplomatique, on voit effectivement en termes de financement durable, on n'est pas encore arrivé au seuil, ou du moins au financement prévu pour la mission. Et on va être en octobre, il faut avoir un renouvellement de la mission. Et les États-Unis actuellement parlent de transfert, de changement de régime pour voir si on peut avoir une mission internationale de paix. Et ce sera difficile parce qu'il y a la Russie et les États-Unis et la Chine qui peuvent mettre leur veto par rapport à ça. Et aujourd'hui, Blinken est allé aussi à Saint-Domingue dans le cadre de sa tournée. Et nous avons entendu le président dominicain parler d'une mission des Nations Unies. Donc c'est un autre élément de langage. Et ils sont en train également de constater que le violon semble difficilement s'accorder entre le niveau politique international, le niveau stratégique qui n'est pas clair et le niveau d'opérationnalisation qui peine encore à donner quelques résultats. Donc c'est un peu mon opinion en termes d'évaluation.
Comment cette force multinationale de sécurité est-elle perçue par les citoyens haïtiens et répond-elle à leurs attentes?
Quand la mission a été validée par les Nations Unies, la venue de la première, disons, assemblée des Kenyans qui arrive en Haïti, il y a eu une mentalité d'attentisme, je dirais. On sent qu'il y a un élément de solidarité internationale, effectivement, qu'il y a un côté matériel de cette solidarité parce qu'il y a des soldats sur le terrain. Donc maintenant, on comprend qu'en termes d'émotion, l'émotion est positive aussi. Mais on comprend aussi, plus l'émotion est positive, plus les attentes sourdes. Maintenant, on est dans la phase de lune de miel. On voit les soldats arriver, on voit qu'il y a du mouvement, on voit des matériels arriver, on voit effectivement qu'il y a de petites actions. Mais en termes de résultats, il n'y a même pas eu de petites victoires. Donc, il n'y a pas de territoire où il y avait des gangs qui sont démantelés. Il n'y a même pas un groupe de gangs qui a été démantelé sur un territoire dans les 85%. Donc, on est encore à 85%. Donc, le fait qu'il n'y a pas de résultats concrets, il y a cette mentalité d'attentisme, les gens espèrent. Par exemple, avant la visite de Blinken, il y avait les Kenyans qui disaient qu'ils n'avaient pas assez de matériel. Donc, ils n'avaient pas assez de matériel. Ce qui fait que quand ils interviennent dans un espace, ils ne peuvent pas faire la consolidation, c'est-à-dire occuper l'espace pendant un certain nombre de temps et empêcher que les gangs puissent retourner et récupérer cet espace-là. Donc, ils n'ont pas assez de matériel. Et maintenant, on voit qu'il y a des matériels qui arrivent. On sent qu'il y a un mouvement proactif. Et les gens, en termes d'émotion, l'émotion est toujours positive, mais les gens attendent. Donc, on est entre la ligne de la phase de la lune de miel, où l'on parle, où effectivement on est en train de transiter vers la phase de résultat. Il n'y a aucune petite victoire jusqu'à présent. Il n'y a aucun des cinq grands groupes de gangs, aucun grand chef de gang qui a été soit stoppé mortellement ou arrêté. Les territoires sont toujours occupés par des gangs armés. On est encore à 85%. Il n'y a plus de territoire où il y a des déplacés internes. Et hier, on a appris qu'il y a un territoire qui s'appelle Gantier. Les gangs sont retournés dans ce territoire-là. Donc, on voit les vidéos des gangs armés, beaucoup d'argent et autres. Ils prennent des espaces, ils s'étendent davantage. Donc, il n'y a pas de petite victoire. L'émotion en termes de perception, c'est l'attente qu'il y a. Mais je crains effectivement que les gens commencent à avoir ras-le-bol. Pas simplement pour l'international, mais également pour même le niveau politique. Il y a un scandale de corruption au niveau du conseil présidentiel qui est au pouvoir depuis le 25 avril. Donc, on est à 526 jours de la passation de nouveaux pouvoirs et jusqu'à présent, on est toujours à 85% du territoire occupé par les gangs. Donc, en termes d'évaluation, en termes de résultats sur le terrain, le temps passe, mais la situation perdure et cela s'empire.
Pensez-vous que les attentes des Haïtiens sont suffisamment prises en compte dans les plans de sécurité et de transition?
Je fais toujours la décantation entre le niveau politique et le niveau opérationnalisation. Plan de sécurité, jusqu'à présent, je l'ai signalé avant, et le violon ne semble pas s'accorder en termes de stratégie et de plan. On ne sent pas qu'il y a réellement une stratégie. On entend les Kenyans effectivement se plaindre par rapport à la stratégie, par rapport au financement, par rapport à leur installation. Ils manquent d'équipements et maintenant ils ont dit qu'ils attendent d'équipements suffisants pour commencer réellement à avoir un ancrage beaucoup plus prononcé. Et on ne sent pas qu'il y a un plan de sécurité, mais on voit effectivement qu'il y a du mouvement. Par rapport à la transition, et la perception est un peu mitigée. On a un conseil présidentiel qui est là depuis le 25 avril, on a un scandale de corruption qui risque d'entraver le conseil, on voit qu'il y a du mouvement, effectivement il y a le premier ministre qui a mis en place son gouvernement, il y a un scandale de partage de gâteaux, partage de postes. Mais ce qui est fondamental pour la population actuellement, c'est la sécurité, c'est la mobilité, c'est la vie communautaire, c'est que la vie puisse être reprise dans sa dimension la plus globale, que les gens puissent se déplacer d'un territoire à un autre, que les gens puissent avoir un espace où effectivement ils sentent qu'ils peuvent se projeter sur 2 ans, sur 6 mois, pour ne pas avoir à craindre pour leur vie. Donc là, je dirais, je crois, en termes d'éléments de politique, que ces éléments-là, ces considérations font partie intégrante de la mission, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu même de petites victoires. Donc, on sent dans la population qu'on ne voit pas effectivement que ces considérations sont et pas prises en compte, mais matérialisées en tant que telles. Donc, il n'est que d'attendre jusqu'à présent, mais attendre jusqu'à quand? Attendre jusqu'à quand? On est à 526 jours de la passation du pouvoir, toujours à 85% d'espace occupé par les gangs.
Quels sont les risques liés à cette force multinationale et comment éviter une dépendance continue à l'international?
Les risques, le premier risque, c'est le risque de dégâts collatéraux. C'est plus difficile par rapport à la situation de 2004 parce qu'on a beaucoup plus de foyers de gangs, beaucoup plus de foyers de gangs. On a plusieurs grands foyers. En termes de sécurité du territoire également, ça représente un grand défi parce que les côtes sont occupées par les gangs. En termes de sécurité maritime, l'État n'a pas vraiment de contrôle de ce qui se passe. Et on a lu dans les grands journaux comme Miami Herald comment il y a eu des chefs de gangs qui ont des rapports avec d'autres pays qui utilisent le couloir maritime pour aller vendre des armes, s'approprier de l'ensemble du matériel pour augmenter leur capacité à affronter l'État et à prendre les territoires. En termes de défis également, il y a la technologie. Les gangs également ont quelques matériels qui sont en train d'exhiber pour montrer qu'ils peuvent avoir des drones et avoir le contrôle de l'espace aérien. Donc, sur le plan technique pour la mission, ils auront besoin de la technologie de sécurité. Grande technologie de sécurité pour avoir le contrôle de l'espace aérien, pour avoir le contrôle de l'espace maritime. Et maintenant, le plus grand défi, c'est que les gangs s'incrustent dans la vie populaire, c'est-à-dire qu'ils font partie de la population, ils s'enrichissent, ils utilisent leur argent et ils essaient de se mêler à la population. Donc ce sera difficile d'avoir une mission de pénétration, ça devra être une mission, comme on dirait, chirurgicale pour éviter d'avoir trop de dégâts collatéraux. Donc on est là dans un cocktail parce que plus le temps passe et plus les gangs se renforcent, c'est plus les gangs puissent trouver un espace où ils peuvent se mêler à la vie populaire. Donc le risque est énorme parce qu'on ne veut pas protéger pour protéger 100 personnes, pour protéger 100 personnes dans un territoire ou pour éliminer 50 gangs, on va tuer les 100 personnes. Donc ça, c'est un défi où il devrait y avoir une certaine intelligence, disons, un haut niveau d'intelligence dans l'opérationnalisation de cette mission. Maintenant, pour ne pas retourner, on est clair, on connaît, c'est le renforcement des institutions haïtiennes, c'est le renforcement de la police haïtienne, le renforcement des forces de sécurité haïtiennes. Maintenant, c'est le moment pour que puisse réfléchir de quel type de force de sécurité que l'on veut pour Haïti, sur le plan préventif, sur le plan proactif, mais aussi sur le plan prospectif, c'est-à-dire par rapport au niveau de sécurité, au niveau de défi en termes de sécurité sur le territoire et entre les pays d'intersection, Haïti, Saint-Domingue, dans les frontières, quelle force de sécurité qu'on puisse avoir pour anticiper et faire en sorte à ce que, pour que la capacité de nos institutions puisse être à même à remplir leur rôle sans avoir à demander de l'aide à l'international après chaque 20 années. Donc là, c'est comment avoir une aide pendant qu'on est en train de gérer l'urgence, mais aussi travailler au relèvement de la force, relèvement institutionnel des forces de sécurité dans le pays et également durabiliser la capacité opérationnelle stratégique de notre force de sécurité. Donc c'est de cette façon-là que je vois la situation des risques.
Comment la société civile peut-elle jouer un rôle clé dans la résolution des conflits et la reconstruction sociale?
On peut dire que la société civile est déjà, une bonne partie de la société civile est déjà partie prenante de l'ossature politique de cette crise en termes de solutions. Ils font partie des secteurs, beaucoup font partie des secteurs qui sont représentés dans le Conseil présidentiel mis en place le 25 avril dernier. Ils font partie également du gouvernement. La société civile sera une composante majeure dans la mise en place du Conseil électoral provisoire. Il y aura un Conseil national de sécurité. Donc la société civile est présente. Et effectivement, il y a un rôle de vigile de la société civile avec les organismes des droits humains, avec effectivement les organismes qui font de l'activisme social sur le terrain. L'activisme politique aussi, documenter ce qui se passe et essayer d'influencer la dynamique politique, la transition politique et forcer le gouvernement à prendre ses responsabilités. Donc la société civile est là. La société civile est là, la société civile joue son rôle dans plusieurs tableaux à plusieurs niveaux. Maintenant là, comment avoir une cohérence globale entre la stratégie, la vision et l'opérationnalisation, ça c'est ma question. Je ne sens pas qu'il y ait effectivement une harmonie entre toutes les forces nationales à pouvoir s'entendre sur une vision claire de cette transition. On voit une transition qui est plus imposée par l'international, proposée par la branche nationale, et il y a un jeu qui se fait entre ces deux niveaux. Donc là, on est perdu. Mais ce qui nous importe beaucoup plus, c'est les résultats sur le terrain. C'est la phase d'opérationnalisation. On a une mentalité d'attentisme. On attend, on fait beaucoup de pression. Mais jusqu'à présent, il n'y a même pas encore de petites victoires sur le terrain. Et cela, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant à ce point.
Quelles initiatives de paix locale voyez-vous comme essentielles pour sortir de cette crise et restaurer la confiance entre les communautés?
C'est une question extrêmement importante. Parce qu'il y a la crise, il y a l'insécurité, mais il y a également le retour à la sécurité. Il y a la sécurité dans un sens beaucoup plus global, c'est-à-dire la sécurité ontologique sur l'être, se sentir en sécurité. Et la vie communautaire est perdue dans ce pays depuis un bon nombre d'années. Il n'y a plus de vie nocturne réellement. Il y a, on sait que la mobilité citoyenne est l'élément primordial d'un état de paix, d'un état de calme. Il n'y a pas cette mobilité-là sans inquiétude. Et moi, la façon dont je conçois qu'on peut avoir une initiative, c'est déjà capitaliser sur les initiatives de cohésion sociale dans les communautés locales respectivement. Ils s'organisent, ils s'amusent. Haïti, dans notre histoire, c'est un pays, un joyful warrior. C'est comme, on fait la bataille, mais pendant qu'on fasse la bataille, on chante, on danse, on regarde nos matchs de foot. Donc, toutes les initiatives qui visent à renforcer la cohésion sociale au niveau des communautés est à encourager. Dans certaines communautés, ce sera difficile d'avoir, de planifier des activités de foot pour les jeunes. Parce que la vie de la jeunesse est morte dans ce pays. Il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'activité de culture, il n'y a pas d'activité de loisirs pour les jeunes. Les jeunes de 15 à 22 à 24 ans, s'il n'y avait pas la technologie, ils peuvent s'amuser sur TikTok, inventer. Donc, moi, je dirais que l'optimisme est là, mais l'optimisme est fragile. On a besoin de jeunes dans ce pays qui puissent encore rêver que c'est possible d'avoir un pays, qui a eu un idéal de paix et de sécurité pour tout le monde. Donc, ce rêve-là est difficile d'inventer actuellement. Et là, je crois que les initiatives de paix doivent accentuer beaucoup plus, non seulement sur les plus jeunes, les plus jeunes, sur les enfants, mais également sur les jeunes filles et femmes de ce pays qui sont en train d'être violées, qui sont en train de subir la violence et les crimes des gangs armés. Donc, capitaliser effectivement sur ce qu'il y a, mais également renforcer et avoir une présence, une stratégie prononcée sur les filles et les femmes de ce pays. Parce qu'on ne peut pas avoir une société équilibrée, surtout en ce moment dans le pays, si on met de côté la réalité difficile, criminelle, dont vivent les femmes et les filles dans certaines régions. Donc c'est la sécurité avant tout, mais la cohésion sociale et la protection du rêve communautaire. Donc les initiatives de paix sont encouragées dans la mesure où elles peuvent aider à renforcer toutes les initiatives qui existaient déjà en termes de renforcement de la cohésion. Avoir par exemple des espaces de lecture, avoir des espaces où on fait de la poésie, avoir des espaces où l'on danse, où on parle de musique, de culture. La vie, c'est tout ça. La vie ne se résume pas à parler de la politique. La vie, c'est le bonheur. Donc moi, c'est en ce sens que je pense que les initiatives de paix peuvent continuer à appuyer ce qui existe. Donc voilà.